meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir amis auditrices, bah oui il est 22h, c'est la causerie, on n'était pas là la semaine dernière, mais nous revoici, nous revoilà.
Et
hop, comme ça, bouh. Alors, eh ben on espère que vous allez bien, ce soir la causerie à la technique, nous avons Clara.
Coucou.
Coucou. Autour de la table des micros, nous avons Fab.
Salut.
Et Jean-Yves,
et moi-même.
Tu voulais pas te présenter.
Bah, je peux m'introduire, mais.
Il faut être souple. Et alors, donc, du coup. Comment on peut nous joindre?
Mais oui, on va vous rappeler tout ça avant d'entamer nos sujets. Alors, si tu veux nous écrire pour nous dire qu'on t'a manqué ou qu'on fait de la merde ou que ça te plaît, eh ben, il n'y a qu'une adresse mail. Ça se passe à la causerie canu en minuscule et tout attaché. Donc, lacauseriecanu@gmail.com. Ensuite, si tu aimes tellement la causerie que tu as envie de réécouter tout ce qui a été fait, et il y en a, je peux te le dire.
252 autres.
C'est ça. Eh bien, ça se passe sur le blog de la causerie, évidemment, qui se trouve à l'adresse blogs, donc au pluriel, .radiocanu.org/la causerie, où vous allez sur le site internet de Radio Canu, où vous avez un onglet, les blogs de Radio Canu, et vous y trouverez la causerie. Et nous avons un petit espace sur un réseau social et commercial. C'est la causerie Radio Canu. Vous y trouverez, pareil, uniquement à la rigueur que les podcasts. Et on vous le redit à chaque fois, mais si vous voulez communiquer, préférez le blog. C'est bien mieux.
Et si vous tombez sur un truc qui fait de la raclette, c'est pas nous. C'est le restaurant qui s'appelle pareil.
Pareil. Et si c'est des trucs religieux, c'est pas nous non plus.
C'est ça.
C'est autre chose. Mais c'est une causerie aussi. Bah oui, parce que ça nous appartient pas. On va se lancer. Enfin, tu vas te lancer, Fab. Pour un premier sujet autour des médias, les pourcentages et tout un truc autour de ça.
Ouais, en fait, j'ai appelé ça pourcentage et belle manipulation. Je vais essayer ce soir de vous parler vite fait de l'utilisation dans les journaux, dans les radios et sur les chaînes d'infos continue d'une plaie absolue qu'on va appeler le pourcentage. Alors, je vais déjà donner un exemple. Vous savez, il y a plus de vin rosé. Et oui, il
ça
n'y a
c'est
plus,
l'info. Hein.
Il n'y a plus. Alors, en ce moment, c'est l'info.
Ah, c'est l'info à fond.
Vin,
quoi.
Alors, c'est les gros titres de ces derniers jours. On était en pénurie imminente de vin rosé. Attention, cet été, pas possible de se bourrer la gueule avec ce truc qui n'est pas vraiment du vin et qui n'est pas vraiment bon non plus, d'ailleurs. Mais ça, ce n'est qu'un avis personnel. On écoute le reportage où on le lit et on découvre que cette pénurie serait liée au fait que la production de rosé est en baisse. Ah, tenez-vous bien. De 12% par rapport à l'année dernière. Voilà. Et donc, ça serait une pénurie. Une pénurie de rosé. Vous êtes vraiment certain de ça ou... Parce que c'est ce qu'est une pénurie, hein, c'est quand on n'a plus rien. Hein,
donc, voilà.
Et bien, du coup, je suis quand même allé gratter du côté de l'INRA. Hein. L'INRA, c'est l'Institut National pour la Recherche Agronomique, qui n'est pas trop réputé pour être des fervents écolos, quand même, hein, on s'en saurait. Et la variabilité d'une récolte à l'autre dans le vin. En fait, vous la trouvez en ligne, vous tapez sur l'INRA 20, machin et tout, et vous avez en fait une page qui explique que d'une année sur l'autre, la variabilité est de plus ou moins 30%. C'est-à-dire, en gros, que vous pouvez avoir plus 30% par rapport à l'année d'avant ou moins 30% par rapport à l'année précédente et que c'est, ils appellent ça une moyenne normale. Ça dépend des conditions climatiques, s'il a fait beau, s'il y a eu un beau printemps, s'il n'y a pas eu de grêle, enfin, tout ce qui peut arriver, quoi, en fait. Et ils disent, en fait, une variabilité de 30% en moyenne, c'est une variabilité normale. Voilà.
Mais là, comme ça, à vue d'œil, hein, et vraiment, j'ai pas fait d'autres études, mais j'ai l'impression que 12...
C'est inférieur à 30.
Oui.
Ben ouais.
Okay, là, je
vous le confirme.
Merci.
Et donc, en fait, c'est là qu'on voit l'arnaque. En fait, tout repose en réalité, cette fameuse nouvelle sur le vin, repose sur un lobby qui est le lobby du vin rosé. Il s'appelle comme ça, lobby des producteurs et commerçants de vin rosé. Et en fait, le vin rosé, c'est le vin le moins cher de France. C'est celui qui est le moins cher, qui est exporté le moins cher. Et bien en fait, en créant un petit buzz comme ça et en affirmant que cette année la pénurie est proche, ce qui a été quand même repris, hein, j'ai cherché et je remercie Acrimed qui a fait un article dessus, dans 213 médias, ce qui est quand même assez énorme entre les médias locaux plus les médias nationaux, ça permet de justifier une hausse des prix et en quelques secondes de reportage de laisser comprendre aux gens que c'est logique que cette année ils payent plus cher leur rosé, comme on l'a dit sur France Info ou sur CNews. Voilà. Et en fait c'est juste en réalité rien de réel, parce que le chiffre de moins 12% il est normal, mais en fait ça permet en réalité encore une fois de faire du business. Alors autre exemple de ces pourcentages utilisés comme ça pour faire vachement sérieux, les grèves sont de moins en moins appréciées. Attention. Autre gros marronnier, vous savez, les marronniers, c'est les trucs qui reviennent à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe tout le temps. Donc là, quand il y a une grève, c'est le marronnier de faire un sondage sur est-ce que les Français sont d'accord ou pas avec la grève, hein ? Grande question. Et bien entendu, sur France Info, je vais vous lire la phrase exacte. Les grèves sont de moins en moins appréciées car on passe de 41% de soutien à 39%. C'est la preuve que le mouvement de soutien bat de l'aile. Alors dit comme ça, ça fait presque sérieux. On a des chiffres, on a des pourcentages et on a une soustraction qui est juste. Parce qu'effectivement, 39 c'est plus petit que 41 et ça fait bien 2% d'écart, bravo. Voilà. Sauf qu'en fait, il faut voir la méthode. La méthode du sondage, il repose sur 1013 personnes. Alors il faut savoir que ce 1013, là aussi, c'est un choix purement arbitraire. Et c'est un choix en fait psychologique plus que scientifique. Donc 1013 personnes et c'est un sondage qui est fait via Internet. Et là, déjà, vous voyez qu'il y a un biais, parce que quand vous faites un sondage via Internet, déjà, ça cible une population précise, c'est les gens déjà qui sont sur Internet. C'est-à-dire que c'est pas forcément tout le monde, et qu'au moment où on fait le sondage, c'est pas forcément tout le monde qui est derrière son écran, machin, et arriver à 1013, ça va assez vite, quand même, c'est pas non plus, voilà. Et surtout, c'est les gens qui prennent le temps de répondre à un sondage, parce que c'est pas donc la majorité de la population non plus. Alors, on ne vous stipule à aucun moment le panel, de qui étaient constitués ces 1013 personnes qui ont répondu, ni même si le sondage était associé à des gains. Vous savez, répondez à ce sondage et vous avez un ticket de 5 euros chez un commerçant quelconque, comme ça se fait beaucoup. Ni même d'ailleurs la question exacte qui a été posée, parce qu'on ne vous redonne pas la question qui a été posée lors du sondage, on vous donne l'étude qui a été faite du sondage et le résumé qui en découle. Donc c'est pas forcément la question exacte. Et en prime, on vous indique pas les normes de variabilité des sondages de ce type, parce que ça compte aussi la variabilité. Vous savez, la variabilité, c'est si je refais deux fois la même chose, est-ce que j'obtiens exactement les mêmes pourcentages ou est-ce que ça varie? Et en fait, ça varie. Il y a une méta-étude qui est très sérieuse, qui a été menée par plusieurs universités dans le monde, à travers le monde, parce que les sondages s'utilisent un peu partout, et qui a démontré que selon la façon dont vous posez la question et surtout à qui vous la posez, les résultats ont une variabilité de plus ou moins 7%. Ce qui est quand même énorme, plus ou moins 7% de variabilité quand on y réfléchit. Ça veut donc dire que là, quand on vous dit, on passe de 41 à 39%, en fait on se fout un petit peu de votre gueule, parce que les 2% ils sont dans la marge de variabilité largement. C'est-à-dire qu'en réalité, avec une variabilité de plus ou moins 7%, en fait vous prenez le premier sondage, vous obtenez 41%, ça vous pouvez monter à 48 ou descendre à, attention, soustraction, 34.
J'avais dit que j'avais pas fait d'autres
études. Et en fait vous êtes toujours dans la marge d'erreur, et c'est donc en fait vous n'êtes pas en fait vous pouvez rien affirmer de cette marge d'erreur. Et donc le journaliste de France Info, coucou Jean-Michel Apathy, quand même je vais donner son nom,
cet adorateur du service public quand
exactement et voilà c'est ça qui maintenant est embauché par le service public, fous-toi de ma gueule. S'il avait été honnête, il aurait pu dire simplement le soutien à la grève se maintient dans les niveaux connus ces derniers temps, parce que c'est exactement ce qui se produit. Que ce soit bien ou pas, mais c'est juste être honnête du point de vue du sondage. Et ça, Forcément, il ne l'a pas fait parce que Jean-Michel Apathy, tout le monde le sait, c'est quelqu'un qui influence l'opinion, c'est son métier. C'est un influenceur, comme on le dit, et il n'est pas trop trop de gauche. Faut pas donc voilà. Alors, le pourcentage, c'est un outil qui ne veut pas dire grand-chose, en fait, au final. On le voit, en fait, le pourcentage a pour but d'habiller de pseudo-sciences pas mal d'articles et de légitimer des faits a priori plus qu'à les expliquer. Rappelons deux, trois choses. Un pourcentage sur un avis d'une population, sur des habitudes, sur des modes de vie, n'est dit scientifique que s'il porte sur au moins 5000 personnes interrogées, c'est le minimum hein, qu'on estime, et avec des catégories interrogées très variées. Sans quoi, il n'est qu'un outil d'étude et d'orientation des masses, rien de plus. Il faut toujours se référer au sujet dont on parle. Les notions de variabilité ne sont pas rares et sont très logiques, surtout quand on parle, comme dans le cas du vin tout à l'heure, de vivant qui dépend des conditions climatiques et de certains paramètres qu'on ne gère pas nous. Et si on ne prend pas de recul, il est simple là aussi d'orienter les choses en faveur des marchés, en créant des pénuries imaginaires, hein, comme le cas du rosé, ou en donnant l'impression d'une surabondance aussi des choses pour casser les prix. Il faut aussi tenir compte du contexte. Pourquoi on vous parle de ça maintenant en fait ? C'est étonnant, hein, le rosé, on vous en parle là, on ne sait pas trop pourquoi. Hein. Dans quel but ? Parce que c'est aussi ça qui est important. Pourquoi ? Voilà. Parce que le rosé, je vous le rappelle, celui que vous allez boire cette année, c'est la récolte de l'année dernière, ce n'est pas celle la récolte de cette année. Vous voyez, c'est un peu logique. Hein. Dans quel but on vous parle de ça ? Sur quel ton ? Voilà. On le voit, les sondages sont devenus aussi un outil pour donner l'impression que votre opinion compte réellement. D'ailleurs, il y a une chaîne, pour ne pas la citer, M6, qui, à tous ses JT, met une espèce de sondage où vous pouvez répondre. Alors, vous essayez, moi j'ai tenté le coup pour voir. En fait, vous pouvez répondre 15 fois à la question, hein, oui ou non, c'est toujours par oui ou par non. Et donc, en fait, c'est un sondage qui ne veut strictement rien dire, mais on prend 3 minutes de JT pour vous dire quel est votre avis sur telle ou telle question. Et puis, évidemment, si ça arrange un petit peu la ligne éditoriale, on va bien insister sur le fait que vous avez été 83% répondre oui, par exemple, à un truc comme faut-il privatiser la SNCF. Voilà. Donc, il existe des ouvrages qui décryptent très bien cela. D'abord, un que je vous conseille, qui s'appelle Petit cours d'autodéfense intellectuelle, que j'avais d'ailleurs présenté dans la causerie numéro 24 du 29 septembre 2013.
Ça nous rajeunit pas.
Ben non, mais au moins, on voit qu'on a de la suite dans les idées. Voilà. Donc, je vous invite à aller réécouter cette causerie si vous avez envie, ou au moins découvrir ce livre, un petit cours d'autodéfense intellectuelle. C'est de Norman Bayard.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et il existe aussi un ouvrage beaucoup plus complet, mais qui est très technique, qui s'appelle justement « Les techniques de sondage », qui est de Pascal Hardilly, qui date de 2006, et qui est très très bien, j'avais eu l'occasion de le lire. C'est très compliqué, hein, c'est des formules mathématiques, c'est ce que vous voulez, mais au moins, vous comprenez comment fonctionne un sondage, et comment en fait on peut l'orienter, parce que l'auteur le dit lui-même. Selon comment tu poses ta question, t'obtiens à peu près ce que tu veux. Hein, voilà,
c'est un peu comme un référendum, en fait.
C'est ça, c'est un peu l'idée. Mais c'est d'ailleurs, il en parle même, parce qu'il dit que le référendum n'est qu'un sondage à grande échelle. Enfin bref, et le livre est très intéressant. Bon, si je vous parle de ça ce soir, c'est pas pour vous dire qu'il faut tout jeter aux orties et qu'il faut arrêter les pourcentages et que ça ne servira à rien, mais c'est juste de garder un esprit critique face à une vérité qui est assénée. Et puis en fait, c'est comme toutes les vérités, surtout quand elles sont révélées, il faut les critiquer parce qu'il y a comme un problème, en fait, à un moment donné. Et en fait, ça relève le plus souvent de l'envie de celui qui porte de plier le monde à sa vision qu'autre chose. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Il n'y a pas très longtemps, il y a une ministre qui a dit, alors je vais citer son, c'est Mme Buzyn, qui a dit 50,3% des Français sont d'accord avec nous, nous avons donc raison. Une personne sur deux et j'ai raison. Mais ça ne veut rien dire. Sauf que cette phrase, comme elle n'a pas dit une personne sur deux, qu'elle a bien dit 50,3, comme si le virgule voulait dire quelque chose.
Ça change tout.
Ça donne une impression en fait de super réflexion, alors qu'en fait, il aurait pu même dire 50,297 que ça serait toujours, ça vaudrait toujours 1 sur 2, quoi, voilà. Mais c'est une façon d'habiller son propos en fait. Donc n'oubliez pas non plus que les études sociologiques sont rarement valables si elles portent sur un panel trop faible de participants. Donc quand vous lisez une étude, surtout sur les réseaux sociaux, comme ça diffuse pas mal, une étude a prouvé que, ouvrez l'étude pour voir sur combien de personnes elle porte. Je donne un exemple, hein, c'est une étude récente avec un sujet qui fait énormément de débats, qui s'appelle l'homonationalisme, hein, dont on entend beaucoup parler, et qui est venu des États-Unis. Il y a des gens qui aujourd'hui critiquent ce qui est le livre, parce qu'en fait, ce n'est pas une étude sociologique, c'est un point de vue. Et qu'elle n'a jamais donné le panel, le nombre de personnes qu'elle a étudiées. Elle a donné des grandes lignes. Voilà. Ça ne veut pas dire que son propos est faux, ça veut juste dire qu'elle ne peut pas l'habiller de scientifisme. C'est ça la différence.
Oui, elle ne peut pas l'amener comme quelque chose de. Oui, c'est ça, c'est juste un travail personnel, un point de vue personnel. Quoi.
Je donne ça parce que c'est une grosse polémique en ce moment qui est, et je trouve qu'elle est intéressante, des gens qui décortent. Qui disent mais ça porte sur quoi, sur combien de personnes, ou quand vous affirmez que c'est comme ça ou comme ça. Et voilà, et j'en donne un autre quand même pour aussi donner. Voilà, c'est aussi pareil sur les pesticides, où Monsanto a sorti une étude, enfin Bayer Monsanto maintenant, pardon, a sorti une étude un peu bâclée, où ils disent on a prouvé que sur les gens qui étaient exposés au Roundup, ils n'avaient pas de cancer en plus. Sauf qu'ils n'ont donné ni le panel, ni le nombre de personnes, ni où ils ont fait l'étude. Donc c'est merveilleux. Donc c'est juste une affirmation, c'est gratuit. Ça, voilà. Donc c'est ça, il faut gratter toujours quand on donne des choses. Et ben encore une fois, moi, c'est juste un appel à l'esprit critique dans la causerie. C'est un peu une habitude.
Oui.
Voilà.
Un esprit critique, pas que dans la causerie.
Non, mais partout. Mais
oui.
Non, mais c'était pour dire, voilà.
Je plaisante. Mais ça me faisait repenser à un autre truc. C'était BFM TV. C'est il y a quelques jours, ils ont sorti un camembert autour de justement la même chose. Les gens qui soutiennent la grève, le mouvement de la SNCF. Et en fait, chez eux, 37%, ça prenait plus de la moitié du camembert. Donc c'est, tu te dis en fait, est-ce que visuellement en fait, et je pense que c'est ça le truc, c'est-à-dire que visuellement je pense qu'on est plus retenu par la taille du camembert que par le chiffre qu'il y aura écrit à côté. En
alors
fait.
Ça c'est même démontré, on est beaucoup plus visuel que chiffre,
c'est
le principe, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des diagrammes quand on présente quelque chose, ou des camemberts, parce qu'on retient mieux le visuel. Et donc effectivement BFM c'est du bidonnage total, mais c'est pas les seuls à le faire.
Ah non je dis pas que c'est les seuls à le faire, mais effectivement c'est un truc qui est sorti il y a quelques jours, et effectivement enfin, tu te dis, oui ils sont pas très à cheval sur leur manière de présenter les choses quoi. Ou alors ils sont...
Non mais ils sont orientés, c'est tout.
Voilà.
Mais je rappelle juste un truc, c'est que BFM ne vous ment pas. BFM, ça veut dire business FM. C'est donc la chaîne du business,
du capitalisme.
Donc continuez à regarder BFM pour vous informer. Vous avez la formation de vos patrons.
C'est ça.
C'est tout. Mais oui, ils le mentent pas. Ils l'ont écrit en haut.
Oui, c'est écrit. Hein. Ah, ils annoncent la couleur.
Donc voilà.
Eh ben, on s'écoute de la musique.
Ouais. et vous êtes toujours dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org, parce que c'est Radio Canu, la causerie. Eh ouais. Donc c'était le groupe iPhone avec The Fear Is Blue. Voilà, j'ai découvert ça par hasard, je trouve ça pas mal. Il y a d'autres trucs qui font qui sont pas terribles, mais ça c'était bien.
Dans oui, le c'est super.
Et Jean-Yves, tu voulais nous parler d'un reportage qui est passé et qui est plutôt bien foutu, et ça vaut le coup de vous le présenter.
Tout à fait. Et bien ce soir, j'avais envie de vous parler des routes de l'esclavage qui est passé sur Arte et qui est disponible, je vous le dis tout de suite, sur les plateformes style YouTube, etc.
En fait, Arte a fait le choix de le mettre en ligne sur YouTube.
Hein, c'est en libre accès, effectivement, donc je vous invite vraiment toutes et tous à y aller. Oui, parce que j'avais bien compris que certains dans les milieux militants n'aiment pas la télé. Alors dès que tu dis tu peux aller sur internet, bah, ça change tout. Donc aller sur internet, vraiment, c'est vachement moins mal que la télé. Oui, la télé, c'est mal. Bon, allez. Alors, cette série documentaire, elle est co-réalisée par Daniel Cattier, Juan Guelas et Fanny Glissant. Il y a aussi, je dirais au moins une quinzaine, une vingtaine d'intervenants et d'intervenantes.
Ouais, et beaucoup plus de gens qui ont travaillé en amont.
Oui, de toute façon,
une cinquantaine de personnes.
Et c'est des intervenants et des intervenantes qui viennent d'Amérique, enfin des États-Unis, du Sénégal, je crois d'Haïti aussi, de France. Enfin voilà, donc c'est vraiment.
Et de tout le continent sud-américain aussi.
C'est assez large. Ouais. Donc c'est une série documentaire qui parle de la période allant du 5e siècle au 19e siècle, période où le continent africain fut l'épicentre d'un trafic global quasi mondial, vu qu'il y avait quand même 4 continents concernés. Donc c'est plus de 1000 ans en fait sur un pan de notre histoire commune, un drame commun, on peut le voir comme ça. On peut avoir un petit regret, en tout cas c'était un peu le mien au début, c'est que ça remonte pas en fait toute l'histoire de l'humanité et de son rapport à l'esclavage en fait.
Alors on va être clair, c'est que c'est des historiens et ils ne peuvent que démarrer au moment où il y a des écrits. Donc en fait, du coup, ils démarrent avec ce qu'ils connaissent et ce qu'ils peuvent prouver, c'est-à-dire textuellement. C'est pour ça que ça démarre à la chute de l'Empire romain, en fait.
D'accord, ok. Bah, mais après, moi, c'est un regret qui est très vite balayé, vu la qualité de la série, vraiment. Donc ce que je vous propose, en fait, vu que c'est 4 épisodes, bon, je vais essayer de vous donner l'envie en vous détaillant assez largement, mais je vais pas tout vous dire non plus, épisode par épisode. Et je vais essayer de faire assez rapidement. Alors, le premier épisode, c'est Au-delà du désert, qui couvre la période de 476 à 1375. Et bien, ça s'ouvre en fait sur un prof d'université américain qui demande en fait à ses élèves de regarder l'esclavage, non pas sous le prisme, sous l'angle des droits de l'humain, de la morale et de son respect, mais bien sous l'angle économique. Et c'est ce qu'il dit, d'où vient la demande de main-d'œuvre et quelle est la nature de cette demande en fait. Et de s'interroger donc plus largement, c'est comment d'une pratique généralisée, parce que quand même, il faut resituer, à l'époque, l'esclavage quand même est quelque chose de assez commun, dirons-nous.
Partout sur la planète en plus.
D'asservir d'autres humains, c'est un truc assez humain. C'est horrible à dire. Et comment donc on est passé d'une pratique effectivement généralisée à une gigantesque traite qui s'est rapidement concentrée sur le continent africain. Donc ça, ce sera l'angle en fait d'approche, la lecture politique, la grille d'analyse, je ne sais pas exactement quel mot utiliser, mais qui est utilisé par les réalisateurs, les réalisatrices et tous les intervenants et intervenantes que vous allez rencontrer tout au long de ces 4 épisodes.
À noter que c'était pas la grille qu'ils avaient forcément au départ, mais c'est celle qui a émergé des recherches qu'ils ont faites.
Très intéressant.
C'est ça qui est intéressant.
Et alors, avant d'aller plus loin, parce que moi c'est un truc en tout cas que j'ai découvert, est-ce que vous savez d'où vient le mot slave dans les langues européennes ? Esclavage dans les langues européennes ?
Tu l'as dit.
Je l'ai dit. Et effectivement, et en fait, ça vient du mot slave. Et alors, moi, je ne savais absolument pas. Et en fait, ça vient du mot slave parce que, à cette époque, les Slaves étaient, selon certains, un peuple que l'on peut asservir. N'est-ce pas formidable ?
Ils l'ont été par l'Empire romain, ils l'ont été par l'Empire ottoman aussi.
Oui.
Donc, ça a été
très longtemps. Donc, dans ce premier épisode, on est face aux empires, aux tribus qui existent après la chute de l'Empire romain, à leur lutte de territoire, leur conquête et la demande d'esclaves qui grandit parce que les esclaves sont les forces motrices de ces empires qui se mettent en place. Et ils étaient souvent bah, des butins de guerre, hein, parce qu'on n'est pas encore là dans ce qu'on peut appeler une traite. C'est pas encore ça.
C'est ce qu'on appelait de la rapine, c'est-à-dire que tu gagnes une guerre, tu récupères ce qui t'intéresse. En fait.
C'est ça, les humains y compris.
Bah oui, parce que c'est des meubles hein, pour les gens.
Bah oui. Mais effectivement, hein, la traite ne mettra pas longtemps à prendre place, mais effectivement, pour le moment, on parle de déplacement d'esclaves de l'Afrique vers le Moyen-Orient.
Et du coup, des slaves vers...
Et effectivement, des slaves qui étaient ramenés vers le sud. Et donc, c'est intéressant, parce que vraiment, et là, donc, arrive la volonté de transformer les marécages en vergers luxuriants autour de Bassora. Bassora, Irak actuel. Et donc... Quand on veut faire ça, eh ben ouais, c'est comme tous les grands travaux, quoi. Je veux dire, eh ben il faut de la main d'œuvre. Et donc, ben la demande en esclaves monte en flèche. Hein, et il faut savoir quand même qu'à cette époque-là aussi, les esclaves ne pouvaient pas être de l'Empire parce que dans l'Empire, si t'es musulman, et on ne peut pas faire d'un ou d'une musulmane une esclave quand on est soi-même musulman. Donc, il y a aussi cette idée-là qu'il fallait justement chercher en dehors de l'Empire.
D'ailleurs, il le présente dans le reportage en disant « L'erreur de la religion musulmane a été celle-ci. » C'est-à-dire qu'il s'est... Eh ben, pour d'un point de vue purement cynique, c'était de dire que tout musulman ne peut pas être esclavagisé et que du coup, les esclaves se convertissaient et les peuples se convertissaient pour ne pas être esclavagisés du coup. Hein, donc,
c'est tout ça. Et dans ce premier épisode aussi, on nous parle d'une révolte d'esclaves qui est... C'était des Noirs, des Arabes, des Indiens. Et cette révolte dure une dizaine d'années. Et on comptera entre 500 000 et 1 million d'esclaves tués dans les plaines de Mésopotamie. Quoi. C'est juste assez hallucinant. Et ça aura pour conséquence en fait, la chute du centre économique de l'Empire au profit du Caire. Donc c'est vraiment c'est assez impressionnant les mouvements de pouvoir et de lieux de pouvoir, c'est vraiment très intéressant. Et ce que rappelait aussi une personne, c'est qu'en fait des esclaves il y en avait partout. Il y en avait aussi en tant que domestique, si on peut appeler ça comme ça, et parce que ça avait une valeur, quand tu avais des esclaves, c'était d'un rang social. Enfin,
Si t'as pas ton esclave à 20 ans, t'as raté ta vie, quoi.
C'était un peu ça, effectivement.
C'est Séguéla de l'époque.
C'est effectivement ça. Et on découvre aussi dans ce reportage, dans ce premier tome, des documents relatifs aux ventes d'esclaves datant de cette période. C'est vraiment intéressant. Le slave, le caucasien, est remplacé au fur et à mesure par, effectivement, l'africain. Hein. On met des guillemets entre tout ça, on est bien d'accord. Hein. Et je vous passe aussi les conseils rédigés pour choisir son esclave. Parce que, effectivement, hein, une marche ça choisit quand même. Hein.
On a l'impression qu'il parle d'un meuble Ikea.
Oui, c'est ça.
C'est phénoménal.
C'est ça. Et ce que rajoute quand même aussi une des intervenantes, c'est que, attention, esclavage domestique, ça reste de l'esclavage. Hein. C'est pas pour adoucir ce qu'est l'esclavage. Quoi.
Généralement, il y avait un droit de cuissage horrible.
Fais à peu près ce que tu veux.
On pouvait les tuer si on estimait qu'elles avaient ou qu'ils avaient dévié.
Tu fais à peu près ce que tu veux. Et pour terminer déjà sur ce premier épisode, on nous explique aussi que l'utilisation des dromadaires, vu leur capacité physique, c'est-à-dire ne pas boire pendant très longtemps, dans le désert, c'est quand même assez cool, a permis de développer le commerce. Et ça, c'est hyper intéressant de voir que les outils, comme un outil animal, on peut dire, de déplacement, devient un outil pour développer son empire, son commerce, etc. etc.
De toute façon, c'est toujours ça, c'est la course à la technique.
C'est exactement ça. Et donc, aussi, la conquête de nouveaux territoires et la soumission, de nouvelles personnes au-delà du Sahara.
Ce qu'on peut quand même rappeler, dès le premier épisode, il nous rappelle que les peuples étaient esclavagisés parfois par leurs propres dirigeants.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il y avait des dirigeants qui vendaient une partie de leur peuple en esclave à des marchands parce que ça leur rapportait et que ça permettait d'avoir une bourgeoisie dirigeante.
Ça se fait pas tout seul. Hein. et on découvre aussi, je vais essayer de faire vite, hein, mais on découvre aussi le classement des humains fait par un géographe arabe, et je cite, reléguant certaines populations dans les franges de l'humanité, et certaines étaient décrites encore entre guillemets, comme plus proche de l'animal. Et évidemment, cela, c'est pas par hasard, ça permet de faire accepter l'esclavage de ces personnes, comme si ça justifiait quoi que ce soit, en fait, d'amener une analyse de merde. Donc c'est toujours pour justifier des comportements absolument dégueulasses. Et on découvre aussi que certaines de ces hiérarchisations sont encore en place dans des pays, quoi. Donc c'est hyper intéressant, vraiment, parce qu'il y a toujours un peu une navette entre le passé, effectivement, qu'on remonte, et le présent. Et donc voilà, et ensuite, à la fin de cet épisode, on est vraiment à Tombouctou. Donc, Afrique, et le Caire, Égypte. Alors, Tombouctou, Afrique, c'est... Pardon. Sont le centre névralgique de ces routes commerciales qui peuvent amener des esclaves jusqu'au Japon et jusqu'en Chine.
Est-ce que Tombouctou a fait sa fortune sur l'esclavage? Et les bourgeois de l'époque faisaient une fortune en vendant des familles complètes comme ça pour récupérer du fric, quoi.
FIFA.
Et d'ailleurs, il y avait même des gens qui essayaient de l'interdire, enfin des dirigeants. Mais après, ils faisaient des... Oh ouais, non, toi, tu peux quand même, parce qu'on est copains.
C'est ça.
Voilà, c'était assez horrible, quoi.
C'est ça. Et donc, j'en étais où? Je vous disais quoi?
Deuxième épisode, tu en es.
Mais oui, pardon. Et donc, oui, deuxième épisode. Ça va, on me suit?
Oui, ça va.
Clara, oui, tu suis. L'épisode 2, alors lui, il part de 1375, hein, forcément, jusqu'à 1620, et pour titre, pour tout l'or du monde. Parce que c'est à ce moment-là que l'Europe, à la sortie des croisades, entre dans le game, comme on dirait aujourd'hui, dans le jeu, en commençant par le Portugal, et vous imaginez bien, vu où c'était situé avant le commerce, si ça part du Portugal, forcément, ça ouvre de nouvelles routes, ça en redessine de nouvelles routes de l'esclavage, quoi.
Surtout les caravelles, en fait.
Mais oui, ah, tu m'as grillé. Parce qu'effectivement, s'il y a un nouveau moyen de se déplacer, c'est la caravelle, et qui va, évidemment, encore une fois, changer la donne, comme le dromadaire avait permis d'aller à la conquête 2. Et ben là, la caravelle, ça va permettre une explosion de tout ça, finalement. Une explosion du marché ou du commerce, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et donc, ça capture les populations qui vivent au bord de l'océan, hein, Mauritanie, Sénégal.
Précision, c'est pas, là encore une fois, c'est pas les Portugais qui capturent. C'est ils viennent récupérer des gens qui ont été capturés en échange de verroteries qu'ils amènent du Portugal. C'est un truc de folie. Hein.
C'est du commerce, quoi.
Ouais, c'est du commerce, vraiment. On est dans le commerce pur. C'est pas une conquête. Eux, ils viennent au port, ils disent bah, moi j'ai besoin d'esclaves, merci. Il y a des gens qui vont capturer des esclaves, qui leur ramènent, et ils leur ramènent des trucs.
C'est ça, parce que, alors au départ, les Portugais cherchaient de l'or. Hein.
Oui, c'est ce qu'ils cherchent. Ouais.
Bon, ils sont revenus avec plein d'esclaves aussi qu'on leur a vendus. Hein, donc voilà. Donc, c'est ce qui était dit à ce moment-là, c'est qu'encore les esclaves étaient encore majoritairement blancs, caucasiens, mais rapidement, les choses vont changer. Et je pense que justement cet outil caravelle y est grandement responsable, mais pas que non plus.
Bah parce qu'on passe de quelques milliers à des centaines de milliers de personnes.
Très vite. Et que justement il y a un autre événement qui arrive en 1453, c'est les routes de l'esclavage des Balkans sont terminées, elles sont fermées en fait. Et il ne reste donc plus que l'accès au continent africain. Donc voilà, donc on revient aussi, ça revient aussi sur les positions des religions autour de l'esclavage. Officiellement, elles sont très très souvent contre. Dans les faits, dans les écrits, c'est un petit peu plus compliqué ou plus malhonnête, je ne sais pas. Et donc après, les Portugais, là aussi, hein, ce sont les Flamands, les Vénitiens, les Allemands, les Anglais qui partent à la conquête de l'or et des esclaves. Hein. Et on découvre aussi le rôle important du royaume Congo. Et on découvre aussi le laboratoire qui était l'île de Sao Tomé. C'est incroyable, vraiment. Je vous conseille vivement de regarder tout ça. Et donc, évidemment, pour chercher l'or, pour l'extraire, il faut quoi ? Et
bon, la main d'œuvre.
Mais oui, et qui dit main d'œuvre dit esclave. Donc on continue, ça ne fait qu'empirer, ça ne fait que s'accentuer en fait. Et donc, là, effectivement, encore un nouveau chapitre parce que. Il crée à l'époque une grande plateforme de déportation massive, parce qu'effectivement, caravelle, bateau, etc. Donc, plus de monde à déplacer.
En fait, le commerce triangulaire va naître sur l'île de Sao Tomé, c'est-à-dire qu'en fait, qui est au large de l'Afrique, où l'île va produire du sucre et va le ramener sur le continent. Voilà. C'est le début du commerce triangulaire. Et en fait, il va être élargi pour aller vers l'Amérique du Sud à ce moment-là.
C'est exactement ça. Parce qu'effectivement, c'est la donnée qu'il faut ajouter. C'est que maintenant, s'ajoute les plantations de sucre.
C'est ça.
Et il faut vraiment garder à l'idée que le sucre, que cette matière première, va avoir un rôle hyper, hyper, hyper important. Et tu as raison, ensuite, on se développe.
Ils se développent
et ils partent vers le Brésil. Et donc, le Brésil, c'est une nouvelle route transatlantique, une route de l'esclavage qui s'ouvre. C'est impressionnant, en fait. Et pendant ce temps-là, c'est, ça aussi, c'est très important et très intéressant à voir et à constater, c'est que pendant ce temps-là, les aristocrates blancs et noirs à Lisbonne vivent sur un pied d'égalité, hein, avec la même langue, les mêmes intérêts, et tous s'enrichissent grâce au commerce d'esclaves et de sucre.
Et c'est même tellement impressionnant qu'il y a même des gens qui sont sur les bateaux. Des vendeurs d'esclaves de l'Empire Congo qui sont sur les bateaux et qui traversent avec pour vérifier que leurs marchandises arrivent bien à bon port et que tout va bien, quoi.
C'est exactement ça. Et donc là, hein, ça se termine sur ça, c'est que là, à partir de maintenant, on va parler de lots d'esclaves. On va parler de contrats qui va parler de milliers d'hommes, de milliers d'esclaves.
Et de têtes, des fois, même.
Oui, c'est ce que j'allais me corriger, parce que justement, il ne parlait pas d'hommes à cette époque-là. C'est horrible. Et on parle aussi de révolte d'esclaves. Et ça, c'est très intéressant. Et ça vient aussi toujours en lien avec des actualités récentes. Et c'est vraiment très intéressant. On passe au troisième volet, qui lui part de 1620 à 1789 et qui est nommé de la guerre du sucre aux premières voix qui s'élève contre la barbarie de la traite. Donc là, les Caraïbes sont les cibles de l'Europe esclavagiste. Donc vraiment, il y a un mouvement qui se passe dans tout ça, et les Hollandais, les Français et
Royaume-Uni
et les Anglais, pardon, là veulent prendre leur revanche sur le Portugal, sur les Portugais. Bon, après avoir massacré les Indiens, parce que vous imaginez bien les lieux où ils arrivent, il y a du monde. Hein. Donc, ils massacrent tout le monde. Et effectivement, c'est là qu'il y a une donnée très très importante, en tout cas que moi j'ai découvert, c'est que 74% des esclaves ont été déportés pour le marché du sucre.
Oui, c'est ce qu'il disait. Ouais.
Donc c'est très important, je pense.
Et le reste, c'était le marché domestique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a vraiment, comme tu disais, le sucre est central, en fait,
c'est
à l'époque.
Ça. Ouais. Et vu qu'on est dans le commerce... Hein, parce que là, pour eux, ce ne sont pas des humains. C'est l'offre et la demande. Et donc là, qui c'est qui arrive ? Eh ben, les banques et les assurances qui viennent tremper leurs petits doigts dans tout ce truc-là. Et donc là, forcément, pour pouvoir financer les expéditions, parce que c'est ce qui est dit aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent jamais à bon port. Il y a vraiment des bateaux qui se cassent la gueule et tout ça. Et de pouvoir tirer profit de tout ça, l'Angleterre est la première à mettre en place une bourse. C'est la Bank of England et la Lloyd's qui est cette assurance, et les deux ont toujours pignon sur rue aujourd'hui.
Une bourse aux esclaves.
Oui.
Pour être précis, que la bourse existait déjà, mais c'est une bourse aux esclaves.
Oui, pardon.
Et c'est intéressant, on vous laissera découvrir, on va pas vous le dire, ce que sont devenus les registres de la Lloyd de l'époque.
Oui, voilà. C'est ça. Oui.
Découvrez ça, c'est très intéressant.
C'est effectivement très intéressant. Et donc là, les ports européens foncent sur ce trafic vers le continent africain. Et alors là, c'est tous les ports. Hein. C'est Copenhague, Lorient, Nantes, Anvers, Bristol, Liverpool, Bordeaux, La Rochelle, enfin... Tout le monde veut prendre sa part du butin.
Dans l'horreur, quoi.
Évidemment. Et il est aussi remarqué qu'à cette époque-là, l'esclavage et le sucre sont une manne financière hyper, hyper, hyper importante.
C'est la première matière première de l'époque. C'est-à-dire qu'au-delà du charbon, au-delà de tout, le sucre devient en fait ce qui est le plus rentable. Voilà. Mais tout simplement parce que c'est produit par l'esclavage. Donc du coup, il n'y a même pas de coût de base, quoi. Enfin, à part acheter un esclave, ce qui est horrible. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que c'est rentable, en fait.
Et c'est aussi dans ce troisième épisode, en fait, hein, donc de 1620 à 1789, qu'on parle de la construction de la race. Ben oui, parce que la race comme arme de soumission, hein, évidemment, servant toujours à hiérarchiser. Alors, je fais une petite aparté, parce que j'ai une petite pensée pour celles et ceux qui aujourd'hui aimeraient faire croire que la race serait un outil d'émancipation. Mais Coco, regardez qui c'est qui l'a mis en place.
Et pourquoi,
oui, oui. Et là, on parle aussi de la terreur, de la violence envers les esclaves. Hein. Il y a des images, c'est vraiment...
C'est ce qu'il disait, dans les plantations, ça sentait la chair brûlée.
Oui, c'est ça. Et les bateaux, pareil, tout le monde disait, c'est pas possible qu'on ne sache pas à quoi ils servent, parce qu'ils sentaient, c'était des milliers d'humains entassés. Hein.
Avec des gens qui étaient morts et qui
évidemment,
brisaient.
Hein. Oui, oui. Et là aussi, il nous parle du code noir qui a été mis en place par Louis XIV, qui était censé donner un cadre tout à fait légal à tout ça, c'est joli.
C'était horrible, c'était pour pas abîmer les biens.
Bah, oui.
C'est dit comme ça, c'est
mais
horrible.
Oui.
Hein.
Enfin, mais oui. Voilà. Et on nous cause encore de nouvelles révoltes d'esclaves. Et là, ça commence vraiment de plus en plus à devenir un vrai problème pour l'industrie du sucre. toujours l'industrie du sucre. Elle revient très, 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 très souvent. Et des maîtres commencent à se rendre compte que, ah, bah tiens, en fait, peut-être qu'un jour, on va nous demander des explications sur tout ce qu'on fait, en fait. Donc là, c'est une grosse, grosse période de mouvement, hein, vraiment, parce que autant les maîtres, effectivement, sont en train de se dire, merde, ça pue, et en même temps, les anti-esclavages se font aussi de plus en plus entendre. Il y a les révoltes dans les différents endroits, donc vraiment, c'est assez énorme.
Et attention, hein, les anti-esclaves, il y a des révoltes d'esclaves, mais il y a aussi des gens qui s'opposent dans les pays esclavagistes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils créent des liens. C'est ça qui est entre les révoltes d'esclaves et les gens. Voilà, il y a même une notion d'internationalisme qui se met en place autour de ça.
Et oui. Et donc, c'est vraiment. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était le troisième épisode. Je vous parle rapidement du dernier épisode parce que je vais faire des heures dessus. Donc, là, c'est 1789 à 1888, les nouvelles frontières de l'esclavage. Très intéressant. Enfin, ils sont tous très intéressants. Et donc, à cette période, Rio est toujours le plus grand port de traite du monde.
Et aujourd'hui, ça, parce que c'est ce qui montre comme conséquence actuelle, le Brésil est le deuxième pays à la population noire la plus importante après le Niger.
Alors moi je me demande si ça se tient encore, parce que justement il y a eu le fait d'importer des pauvres blancs européens.
C'est ce qu'ils disaient en population.
D'accord,
voilà,
ok.
Nombre de Brésiliens aujourd'hui versus voilà. C'est juste fou quoi en fait.
Donc là à cette période-là, hein, les soulèvements d'esclaves sont vraiment de plus en plus nombreux et avec leur victoire à Haïti, se diffuse une peur relative quand même de toutes ces révoltes, de toutes ces révolutions. Il y a vraiment un truc qui est en train de se passer.
Un big up à Toussaint Louverture.
C'est ça. Les Britanniques, qui eux étaient vraiment à fond hein, dans l'esclavage, et ben là, ils sont en train de se dire, en 1807, nous, on est défenseurs des droits humains. Nous, vous ne pouvez pas faire ça.
Surtout parce c'est qu'ils n'arrivaient plus à avoir assez d'esclaves. Hein, c'est tout ça au départ.
C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que les postures peuvent très vite changer. Et là, maintenant, l'Angleterre, effectivement, dit en 1815, tout le monde arrête l'esclavage.
Et ils coulent les bateaux.
Ah oui.
Des bateaux esclavagistes.
Bah oui. Par contre, le Brésil, de son côté, lui, continue. Ouais. Illégalement, mais ça continue. Donc voilà, donc c'est vraiment. Enfin, c'est assez dingue parce que, pareil, de 1815 à 1850, il y a autant d'esclaves qui traversent l'océan qu'avant. Oui. Que tout ce qu'il y a eu avant, en fait.
C'est ça.
C'est assez ouf. Et on se rend compte que là encore, dans toute cette mouvance, enfin, toute cette période de mouvement, eh ben, il y a toujours certains qui tirent profit. Et là, c'est Zanzibar, Afrique de l'Est, qui en tire bien, bien, bien profit. Hein. Et c'est hyper incroyable.
C'était déjà les califes à l'époque. Quoi.
Et on passe à 1860, l'Europe, qui veut du coton, et. Bah voilà que la France, la Belgique envoient leurs armées sur le continent africain. Bah oui, comprenez bien, si on ne peut plus exporter les humains, bah il faut exploiter, il faut les exploiter sur place et contrôler la production. Et c'est ce que veut la France. Ce n'est pas la seule non plus. Et pour appuyer cela, hein, il faut évidemment faire croire à une mission civilisatrice. Et voilà à nouveau la race utilisé comme un pseudo-outil scientifique. Donc c'est vraiment...
C'est passionnant.
C'est passionnant, vais arrêter là et je vais juste terminer vite fait par deux phrases qui sont données par un des intervenants qui disait juste que le racisme, en fait, n'a pas créé l'esclavage. L'esclavagisme.
C'est l'inverse.
C'est l'esclavagisme qui a créé le racisme. Et ça, c'est une donnée qui est, je pense, hyper importante. C'est vraiment très important. Et qu'il invite aussi, en fait, à voir l'histoire, en fait, de l'inégalité des humains comme notre histoire à toutes et tous, en fait, à tous les êtres humains. Et il dit, à un moment donné, il dit, bah, le blanc, pourquoi il ne devrait que se voir dans le rôle du maître ? Il peut aussi se voir dans ce que c'était d'être esclave. Et le noir, il peut aussi se considérer comme aussi un descendant des maîtres, en fait. Et c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, je pense que c'est à ça que nous appelle, en tout cas, ce truc-là, et je pense que c'est un point de vue qu'on a déjà défendu ici, c'est que toutes ces choses-là font partie de l'horreur de notre humanité, et à toutes et tous, à travers le globe. Parce que si on commence à mettre des frontières là-dedans, en fait, on va toujours se dédouaner de tout, alors qu'en fait, non, acceptons-le comme une mère du passé et qui continue quand même encore aujourd'hui, hein, j'aimerais quand même le rappeler, l'esclavagisme continue aujourd'hui, dans de moindres mesures, mais quand même. Donc voilà, je vous invite vraiment, vraiment à voir ça. Ce sont Les Routes de l'esclavage, 4 épisodes de 52 minutes, à voir sur YouTube. Et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Fab.
Oui, deux choses. La première, c'est qu'il faut voir comme aussi la spécificité de l'esclavage américain, parce qu'il est très bien expliqué dans le quatrième, c'est-à-dire qu'on fait un élevage d'êtres humains, c'est assez horrible, mais voilà, parce qu'ils ne peuvent plus importer d'esclaves. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est, je voulais corriger ce que tu viens de dire, c'est que non, l'esclavage aujourd'hui n'est pas inférieur à avant, vu qu'aujourd'hui il y a plus de personnes en situation d'esclavage qu'il n'y en a jamais eu de déportés. C'est-à-dire qu'il y a eu 50 millions de personnes mortes de l'esclavage, c'est ce qu'on estime, et aujourd'hui il y a 49 millions de personnes esclavagisées dans le monde, c'est-à-dire équivalent. Voilà, donc l'esclavage n'est pas en diminution, malheureusement.
Non, effectivement, voilà. tu fais bien de corriger. Ben, on s'écoute une musique. Et vous êtes de retour dans la causerie. On vient de s'écouter Fatou Diawara qui chantait Donia et ses noms à l'esclavage. Et c'est une chanson récente pour dire non à l'esclavage.
Qui est encore aujourd'hui.
Sur
le continent africain.
C'est ça. Et je l'élargirai bien partout ailleurs. Fab va nous parler en dernière partie de la peine de mort et de la variabilité de sa défense.
Ouais, la géométrie variable de la lutte contre la peine de mort. Hein, voilà. Alors l'actualité, vous l'avez sûrement vu, il y a plusieurs participantes et participants à la guerre au nom de l'État islamique. ou de groupuscules islamistes qui ont été arrêtés et emprisonnés dans plusieurs pays pratiquant la peine de mort, l'Irak en particulier, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors, certaines de ces personnes sont de nationalité française ou belge, ce qui fait qu'on a eu une mise en lumière de ces personnes-là, parce que je pense personnellement que d'autres ont déjà été exécutés sans qu'on en entende parler. Alors, pour ma part, moi, je pensais que les choses étaient claires en tant que personnellement anarchiste et donc aussi dans les milieux anarchistes et de gauche. La peine de mort était un lointain souvenir et une chose était, et c'était une chose combattue. Eh bien, j'étais un peu surpris parce que pas vraiment. Et là, ça m'a un peu refroidi. Alors d'abord, ça a commencé que, comme souvent avec les réseaux sociaux. Hein, vous savez, ces trucs qui servent à défouler un petit peu nos égos. L'idéologie portée et des actes commis par ces personnes n'ont clairement pas ma sympathie. Hein, faut pas déconner.
Ah bon, t'es pas pour voilà. Tuer tout le monde au nom de Dieu, toi.
Ce serait même un euphémisme. Voilà. Et je les condamne à son détour, évidemment. Mais en fait, le fait que les actes dits barbares soient condamnables ne justifie pas, à mes yeux, ne justifie pas du tout la peine de mort. Et bien pourtant, pour certaines personnes, ça le justifie. Alors, bien sûr, évidemment, ça va se faire de façon un petit peu étrange. C'est-à-dire que ça peut être en frontal. D'abord, ça va commencer par un simple « on va quand même pas les pleurer », vous voyez. Comme si, en fait, la condition d'être condamné à mort devait dépendre de ce que vous avez fait avant. C'est un peu étrange, mais voilà. Donc, on va quand même pas les pleurer, c'est le premier truc. Et puis, bien sûr, ça vient à la fin, à le fameux « mais c'est un juste retour des choses après ce qu'ils ont fait », qui n'est qu'un ressucé de « œil pour œil, dent pour dent », qui est très biblique, pour ceux qui connaissent pas, voilà, remis à la sauce se pensant progressiste. Hein. Mais pire, lorsque des voix, alors, dont la mienne, j'ai fait partie des gens qui trouvaient ça anormal, se sont élevées pour rappeler que personne ne mérite la peine de mort, par définition, et qu'on doit toujours combattre la peine de mort, bah, c'est là que le déferlement arrive. Alors d'abord, on vous dit classiquement, mais si tu avais un proche qui avait été tué par, voilà, ce qui est la pire des démonstrations, parce que ça voudrait dire que la justice devrait être rendue sur la base purement de l'émotionnel, on laisse imaginer ce que ça pourrait donner. Hein, la vengeance absolue permanente quand même.
Oh bah, je pense qu'on réexécute à l'appel quoi.
C'est ça, et aussi bien sûr après, une fois que vous répondez ça, on vous répond généralement que bah, en fait tu partages un peu leur idéologie, c'est pour ça que tu veux pas qu'ils soient tués. Évidemment, ça c'est complètement stupide, mais ça permet, quand on n'a pas d'arguments, c'est ce qu'on sort. Alors j'ai fait un tout petit peu de rhétorique pour le fun, comme on dit maintenant. Alors d'abord, si les actes justifieraient leur mort, si leurs actes justifieraient leur mort, quelle différence entre celui qui juge à mort et celui qui tue parce que la personne en face est jugée par lui mécréante ? Après tout, c'est une justification de la part de convictions personnelles. Donc je ne vois aucune différence. Donc voilà, déjà ça devrait un petit peu nous interroger. Ensuite, pourquoi réserver notre indignation au cas que l'on pense seulement juste ? Voilà. Soit on est pour l'abolition de la peine de mort, et cela vaut pour tout le monde, soit en fait on demande juste une sorte d'aménagement de celle-ci à des normes moins rudes ou plus en adéquation avec nos convictions. Mais là aussi, quelle différence ? Quelle limite on met ? À partir de quel moment ?
Bah c'est surtout que, en fait, à partir du moment où tu dis oui, mais, bah c'est qu'en fait, il n'y a plus d'abolition de la peine
c'est
de mort.
Ça.
Quoi.
Voilà. Donc il faut poser les choses face à la peine de mort, et c'est avant tout le faire face au pire, en réalité. Se dire contre la peine de mort, c'est assez simple. Mais il faut, pour être certain de ses convictions, se confronter justement au pire. C'est-à-dire que les personnes condamnées, dans ce cadre-là, qui sont effectivement des gens qui ont commis des actes horribles. Le cas des djihadistes combattants est un très bon cas limite, comme on dit. Et c'est là que si on abandonne nos convictions et les bases de nos engagements, et ben tout peut s'effondrer en fait très vite. Parce qu'au final, ils auront même gagné dans leur idéologie. Parce qu'ils justifient eux-mêmes la mort par quelque chose qu'on va venir à justifier nous aussi pour les mêmes raisons, un peu en biais, quoi. Et du coup, ben oui, c'est bien, ils ont fait leur job, quoi. Si face à des gens comme ça, ce qui sort en premier est le bienfait pour ta gueule, cela démontre surtout une faiblesse de l'éthique portée face à la peine de mort, en fait. Alors je voulais juste rappeler qu'on ne parle pas là de personnes qui seraient mortes de vieillesse, d'accident ou de maladie, mais bien d'une, ou même tuées au cours d'affrontements ou au cours de guerre, mais bien d'une justice qui puisse décider au nom d'un peuple d'électrocuter, de pendre, de fusiller ou autre une personne en notre nom. Voilà. Et moi, je voulais poser ça. J'ai pas de réponse, mais j'ai été super scotché de ce que j'ai lu autour de tout ça, en fait.
Ben oui, parce qu'après, on te dira toujours, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Ben, on peut déjà décider de ne pas les tuer, parce que éthiquement, on ne le veut pas. Et ensuite, on peut se poser les questions, effectivement, de ce qu'on peut faire, parce qu'effectivement, enfin, on peut pas laisser non plus.
Non mais après,
on peut pas dire juste chacun courir dans vos coins et tout ira bien quoi.
C'est pas l'idée. Simplement, pour moi vraiment, et là parce que je m'interroge aussi, je me dis oui. Mais déjà, bon, ils sont en prison à l'heure actuelle. Alors je suis pas un fan des prisons, mais là à l'heure actuelle ils sont en prison. Donc je veux dire, il y a un moment donné, on n'est pas en train de se dire c'est la peine de mort ou ils vont courir dans courir dehors. Il y a pas, non, c'est pas vrai. C'est juste, en fait, c'est juste là pour l'heure ils sont en prison. Et moi je pense vraiment que si on abandonne l'idée que quelqu'un peut se rendre compte qu'il a fait de la merde dans sa vie, même en ayant été djihadiste, même en faisant une guerre injuste, et ben en fait on perd notre humanité, parce que je pense qu'on peut effectivement être fanatisé à un moment de sa vie et complètement se rendre compte qu'on a fait de la, qu'on a fait n'importe quoi 10-15 ans après, et être peut-être même la personne qui va être la meilleure pour éviter que d'autres se fanatisent. Ça peut paraître très bizarre ce que je dis, mais il y a eu des cas comme ça. Et je vous invite d'ailleurs à voir, j'en ai vu un très bon morceau, un reportage sur les jeunes qui étaient dans les Hitlerjugend et qui raconte justement ce que c'était d'être dans les jeunesses hitlériennes et de sortir de la guerre avec une idéologie nazie dans la tête, et comment en fait on en sort. Et bien en fait, quand vous voyez ce reportage, vous vous dites effectivement, si on était parti dans l'idée qu'il fallait fusiller tout le monde, ben en fait on se plantait gravement, parce qu'il y a des tas de gens qui en fait ont réussi à se dire mais ce qu'on m'a mis dans la tête c'est vraiment naze quoi. Voilà. Et donc c'est pour ça je me dis
mais tu fais bien
voilà,
de
le poser.
Mais tu fais très bien, parce qu'effectivement c'est toujours dans les situations critiques, en tout cas entre guillemets, qu'on se révèle ou qu'on se limite ou qu'on voit la cohérence qu'on a avec les idées qu'on peut facilement porter, parce que c'est tellement cool d'être belle, mais que c'est aussi dans se confrontant avec ces réalités-là qu'on confronte notre propre pensée en fait.
Je suis d'accord. Et c'est plus comme ça faisait 15 jours qu'on n'était pas venu, enfin qu'on n'est pas venu la semaine dernière, je me suis dit on va venir avec un sujet léger.
Ah bah oui, c'était une causerie légère, hein, comme à son habitude, ensoleillée et parfumée. Et ben, on va passer rapidement.
Clara, un petit jingle brève.
Jingle brève.
Merci Clara. Oh.
Que d'enthousiasme à la technique. Waouh! Eh ben, allez, on y va. Eh ben, toute la semaine, c'est les permanences d'aide aux travailleurs sans papier, hein, qui a lieu donc tous les jours de 10h à 12h à l'Union départementale de la CGT, c'est au 215 cours Lafayette, dans le 6e arrondissement.
Et le lundi 28 mai, donc comme tous les lundis, cours de langue à destination des migrantes et migrants, c'est de 18h à 20h dans le local La Plume Noire, 8 rue Diderot, dans le 1er. Et il y a aussi le lundi 28 mai aussi la permanence de soutien aux sans-papiers et à leurs proches, c'est de 18h30 à 20h à la Lutine, 91 rue Montesquieu, dans le 7e.
On passe à mardi 29 mai. C'est le secret de papier, concert de soutien au collectif Jamais sans toi. C'est à partir de 19h à la salle Paul Garcin à Lyon. Les bénéfices iront soutenir les aides aux familles suivies par les collectifs de différentes écoles concernées. Le spectacle. Attends, je ne veux pas me répéter.
Si, c'est le spectacle Secret de papier.
Sera présenté donc le mardi 29 mai, c'est ce que je viens de dire. Donc à 19h, hein, les comédiens donneront les bénéfices de la soirée au collectif. C'est exactement ce que je viens de dire. Et,
tu veux dire qu'il y aurait un copier-coller malheureux, je pense que c'est ça. C'est la dernière ligne qui est intéressante.
La dernière ligne nous apprend qu'une buvette de soutien sera proposée avant le spectacle.
Et oui, parce qu'on prépare les brèves et des fois on fait des copier-coller qui ne vont pas. Pardon. Et donc ça c'était
mardi 29 à 19h à la salle Paul Garcin à Lyon.
On va y arriver. Et jeudi 31 mai 2018, projection débat documentaire Les Dépossédés, c'est le RGL Hors les Murs. Donc le RGL, c'est le réseau des géographes libertaires, et qui fait une séance dite Hors les Murs, c'est-à-dire en dehors de leur habitat naturel.
Pardon. Parce que le géographe libertaire vit dans un habitat très particulier.
Je pense. Voilà. Non, je pense c'est en dehors de l'université en fait. Donc c'est une projection du film Les Dépossédés d'Antoine Costa, suivi d'un débat avec le réalisateur. Donc c'est de 19h à 21h et c'est dans le cadre du séminaire Espace Critique qui est organisé donc par le RGL. Voilà, et alors c'est aussi, alors parce que ça des trucs universitaires, j'ai toujours du mal, c'est aussi dans le cadre de l'atelier 7 de l'UMR, EVS, Environnement, Ville et Société. Je voulais chercher qui sont tous ces gens, hein. Voilà. Mais par contre c'est super intéressant, donc il faut y aller. Donc cette séance sera l'occasion d'un séminaire hors les murs de l'université, elle se tiendra à Alpes, au 13 rue d'Alandine, dans le 2e à Lyon. Et donc voilà, et puis c'est suivi d'un débat, ouais, ça je l'ai déjà dit, encore un copier-coller malheureux, et... Et à l'issue de la soirée, vous êtes invité à un apéro convivial. Voilà.
Ça sent qu'on n'était pas là depuis un moment.
Mais ça sent surtout que j'ai fait des copier-coller bizarres. En fait, je suis vraiment désolé.
Le mec fou avec la souris, quoi. Je fais copier-coller comme un dingue.
J'ai tout mis en double.
Et la dernière info.
Oui, importante.
Oui, importante aussi. C'est donc dimanche prochain. C'est la causerie qui commencera à 22h. Vraiment pile poil, parce qu'on va vous diffuser le témoignage d'Amina, qui dure 1h30 environ.
À peu près.
Amina, elle nous parlera de sa vie, de son départ, de son pays natal avec ses enfants, pour protéger ses filles de l'excision et de la mort qui pourrait en suivre. Donc on vous donne rendez-vous dimanche prochain, donc à 22h sur l'antenne de Radio Canu au 102.2 de la bande FM à Lyon et partout et dans sa région, et via internet partout ailleurs. Voilà pour les rendez-vous. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de nuit.
C'est vrai.
Fab, je te sens blagueur.
Non, c'est que je me demandais si t'allais dire avec qu'on se quitte ou pas, en fait.
Ah oui, pardon.
J'attendais, je te laissais le dire. Pardon. Va-t-il le dire, oui, non.
Excuse me. Nous allons nous quitter avec Childish Gambino et le titre This is America. Et je vous invite... amis auditeurs, amis auditrices, c'est si ça vous plaît musicalement, je vous pousse vraiment à aller voir le clip sur internet. C'est très très fort. Alors attention, il y a des images violentes, mais c'est aussi ça la réalité, et c'est aussi ça l'Amérique. C'est ce qu'il nous dit dans son titre.
This is America.
C'est ça. Donc on vous laisse avec Childish Gambino, This is America, et on vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, une bonne semaine, et à dimanche prochain.
À dimanche, des
ciao.
Bisous.
Ciao. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm on get it. Watch me move. This is selling. That's cool. Yeah. On my Kodak. Black. Know that. Yeah, yeah. Get it. Yeah. 100 bands. Contraband. I got the plug on a hawker. Whoa. They gonna find you like Baka. Blah. Ooh, America. I just tricked my following. Listen. You motherfuckers owe me. Yeah.
just a black man in this world. You just a buck hole, hey. Just a black man in this world. An expensive foreign trade. Just a big dog, yeah. My Kindle came in a backyard. My barbarian life took, dog. Barbarian life.